Une vie, une œuvre. Bonjour à toutes et à tous. Patrick Leigh Fermor, 1915-2011. Une vie, une œuvre vous entraîne aujourd'hui dans les pas de l'écrivain anglo-irlandais Patrick Leigh Fermor. Pour une errance racée de Calcutta à la Grèce, en passant par le Rhin, le Danube et la Crète. Une errance à pied et en parachute à la rencontre de quelques ogres, de Juliette Gréco et d'un général de la Wehrmacht amoureux des vers d'Horace. Chaussé donc comme Paddy, les bottes de 7 lieues et les pantoufles de Byron sous un vol de cigogne pour mieux suivre, dans la nuit et le vent, celui qui vécut comme un clochard, un pèlerin, un moine itinérant, un goliard et un chevalier désespéré. Patrick Leigh Fermor, un documentaire de Françoise Esteb et Lionel Quentin.
Alors je suis parti, je suis à Rotterdam, il neigeait, j'ai débarqué au milieu de la nuit, en décembre, et je me sentais, mon Dieu, comme c'est merveilleux. C'était à 3h du matin, avec la neige qui tombait, il y avait une statue d'Erasme, je me rappelle, couvert de neige, n'est-ce pas? Et cette très belle cité qui est complètement détruite après. Et je dis, maintenant c'est ça la liberté, je pars.
Tout était gelé. J'éprouvais une joie particulière à franchir les flaques solidifiées. Les disques gris, les cosses glacées craquaient sous les semelles cloutées et les sabots, en émettant un mystérieux soupir d'air emprisonné. Puis ils se fragmentaient en étoiles et blanchissaient à mesure que les figures arachnéennes s'étendaient.
Je l'ai trouvé merveilleux absolument d'une grande gaieté, d'une grande simplicité. Très beau physiquement, vraiment imposant par cette espèce de grâce de l'aristocratie britannique. Il en avait toutes les apparences, toutes les possibilités. Il avait simplement, il n'était pas de l'aristocratie, il était simplement de cette grande classe d'anglais qui a été la classe des découvreurs, des voyageurs, des philosophes. Et il y avait énormément de race dans sa vie, dans ses gestes, dans sa façon de parler.
Je crois surtout que c'était la curiosité. Il voulait toujours savoir ce qu'il y avait au-delà de la montagne, ce qu'il y avait un peu plus loin. C'est l'homme le plus remarquable que j'ai jamais connu de ma vie, à tout point de vue. Conversation, érudition, esprit, l'intelligence. Il n'y avait aucun sujet dont il ne pouvait parler couramment et avec une vraie connaissance sur toutes les questions, surtout évidemment littéraires, mais aussi linguistique, géographique, je ne sais pas quoi, enfin tout. Et tout, il savait transformer. Et tout ce qu'il disait était tellement amusant, n'est-ce pas? Enfin, tout le monde, on riait tout le temps chez lui.
Un être très généreux, je crois. Très généreux de son temps, de son savoir, de son cœur. Je crois que c'était ça, c'était un être solaire.
Un tel temps se prête aux songeries. Le monde est emmitouflé de blanc. Les routes nationales et les poteaux télégraphiques disparaissent. Quelques châteaux pointent à moyenne distance. On peut glisser plusieurs siècles en arrière. Ce sont des enluminures de manuscrits qui se forment sous le regard. On croit voir les scènes que les vieux bréviaires et les livres d'heures renfermaient dans le haut d'Oraté Fratres. La neige tombe. C'est un temps carolingien.
Le plus important chez Patrick Leigh Fermor, c'est son style d'écrire. Moi, je crois qu'il était un des deux ou trois maîtres de la prose anglaise de son siècle. Quelqu'un qui écrit, qui a un style très, très marqué, qui ne ressemble pas du tout au style d'autres écrivains, comme une exception à toutes les règles. Il sait décrire une chose comme personne d'autre. Et on lit ça, on dit « c'est lui ». Ah, il a un talent extraordinaire pour la description, qui est aussi très drôle, parce qu'il avait un sens merveilleux de l'humour.
C'est un Anglais à demi-irlandais et un Anglais de l'émigration. Donc c'est un homme qui a eu une vie très riche, mais une vie très, et je le dis dans le bon sens du terme, très marginale. Très marginale parce qu'il est sorti des sentiers battus et il a eu une vie qu'il s'est façonnée lui-même, qui a été son choix et à laquelle il a apporté une flamboyance absolument extrême.
Mon père et moi, nous ne nous comprîmes jamais tout à fait. Je crois que je le trouvais trop austère, distant et frugal. Quant à ses instincts de naturaliste, il l'invitait sans cesse à la classification scientifique. À m'apprendre ce jour-là, par exemple, si les gentianes que nous venions de trouver sous la limite des neiges éternelles sur le Sacromonte étaient des dicotylédones ou des monocotylédones, sans dire un mot de leur couleur. J'avais besoin d'une musique plus sauvage, d'un vin plus puissant.
Son père était un homme scientifique, un géologue,
Artemis Cooper,
qui venait d'un milieu assez modeste, qui était le chef du Geological Survey of India. Et sa base, c'était à Calcutta. Et sa maman, c'était romantique. Son père, alors le grand-père maternel de Paddy, avait des mines d'ardoise, I think that's slate. Alors elle vient aussi d'un milieu, tandis que le père est modeste et s'est vraiment fait quelque chose, la maman vient d'un peu plus haut dans les échelons, et elle est très romantique, elle joue le piano, elle adore chanter, elle adore faire du théâtre. Et comment disait Paddy, il disait « What were they doing in each other's company ?» Ils étaient vraiment, ce n'était pas un mariage très heureux. Alors, ça n'a pas allé très bien. Mais enfin, ils ont eu une fille d'abord, qui s'appelait Vanessa. Et en 1915, Madame Fermot a eu son fils en Angleterre. Bon, alors, nous sommes en pleine guerre. Et bien sûr, son mari, sa famille, c'est à Calcutta. Et quand Paddy, alors, avait, je ne sais pas, un an et demi, elle a décidé de retourner en Inde. Mais à ce moment-là, on risquait, il y avait déjà des attaques allemandes sur les vaisseaux, même civiliennes. Alors, elle n'osait pas prendre tous les deux, les enfants, tous les deux, ensemble. Alors, elle a laissé Paddy avec une famille plein au milieu de l'Angleterre. Et c'est là que, pour les quatre premières années de sa vie, il a vécu avec une famille adorable, qui était très, très gentil vers lui. Il faisait n'importe quoi. Et il était complètement un petit enfant sauvage, comme ça. Il vivait dans les prés, dans les bois. Et c'était seulement quand sa maman est revenue en Angleterre, quand la guerre était finie, en 1919, que les années de l'école ont commencé. Et tout était gris et tout était noir. Et Paddy ne faisait rien. Il était toujours very naughty, je ne sais pas comment dire ça, très
turbulent.
Voilà, il était très turbulent. Alors, s'il y a jamais, il y avait quelqu'un qui était sur le toit de la cathédrale, c'était d'habitude Paddy Lee Fermot. C'était toujours lui. Si quelque chose allait mal, c'était toujours Fermot.
J'étais à l'école, ça n'allait pas du tout. J'avais une discipline atroce.
Patrick lit Fermor.
Je faisais de bonnes études, mais on est fini par, avec regret, me ficher à la porte de l'école. C'est pas, je l'ai expulsé. Après ça, je suis allé à Londres pour étudier pour l'armée. J'étais destiné à une carrière militaire pour aller à Sandhurst, qui est l'équivalent de votre Saint-Cyr, et de faire une carrière militaire dans l'armée anglaise aux Indes. J'avais 18 ans. Et tout d'un coup, je me suis rendu compte que ça n'irait pas en temps de paix, la vie militaire et la discipline. Et je suis décidé de déguerpir.
Le voilà à Londres avec une petite... un peu d'argent de poche, quoi, pour chaque mois. Et il ne savait pas quoi faire. Tout ce qu'il savait, c'est qu'il voulait lire, il voulait être écrivain. Et, il avait des défaites, il était dans les pubs, il faisait rien. Il avait beaucoup d'amis, mais pas grand-chose. Et tout à coup, une idée s'est formée. Il allait marcher des Pays-Bas jusqu'à Constantinople. C'était, comme il disait dans ses mémoires, la première décision raisonnable que j'ai jamais faite.
Paysage silencieux, avec ces patineurs bruegeliens qui décrivaient leur cercle aussi lentement que des mouches sur les canaux et les polders. La brise qui poussait les nuages rapides n'avait rencontré aucun obstacle sur une distance de 1000 milles. Raison pour laquelle le voyageur marchant sur l'échine d'une digue, au-dessus des ombres des nuages et de la campagne étale, succombait à un sentiment enivrant d'espace illimité.
Patrick Lee Fermor quitte donc l'Angleterre pour une traversée de l'Europe à pied, sac au dos, périple ponctué par son journal de bord. Errance de ses notes, cahiers volés, égarés, retrouvés parfois en des lieux improbables. Des dizaines d'années plus tard, sa mémoire recréera cet itinéraire initiatique en trois récits, trilogie publiée aujourd'hui sous le titre « Dans la nuit et le vent ». Alors, dans quel état d'esprit ce jeune homme a peut-être brûlé quitte-t-il la corne de la Hollande en décembre 1933 pour marcher jusqu'à Constantinople, Guillaume Villeneuve ?
Eh bien, il s'en est expliqué lui-même, si vous voulez. On avait d'ailleurs failli mettre cette phrase parmi celles qu'on a placées sur le rabat de cette édition magnifique de Paul-Éric Mondron, vous savez, donc l'éditeur belge. Paul-Éric Mondron et moi-même, nous étions demandés si on allait glisser une phrase que Paddy lui-même a dite lorsque les deux premiers tomes sont parus il y a maintenant presque 25 ans. Paru en français. Il a dit lui-même, tout cela venait de ce que j'avais des problèmes avec mon père, que je ne m'entendais pas avec mon père, et aussi que j'avais une fascination pour la Grèce et Byzance. Voilà un peu l'état d'esprit dans lequel il était. En réalité, il traversait une crise profonde, existentielle, et ce voyage a été... à la fois une fuite et une libération. Ça a été, en fait, je crois, l'essentiel de sa vie. L'irruption de la grâce et le revoir ou l'adieu aux corybantes et aux furies. Et par exemple, j'ai ici cette phrase qui est dans le temps des offrandes vers la fin. « Mais pourquoi fallait-il ?» que l'idée que ma situation présente était inconnue de tous engendra un tel sentiment de triomphe comme si je fuyais des chiens de chasse ou une meute de corybantes échevelées inclinant à l'écartèlement. Car cette idée, en effet, m'emplissait toujours de joie. Donc ça, il le dit au premier tome, il va le dire plusieurs fois, il va le dire évidemment au troisième tome, n'est-ce pas ? C'est au moment où il a trouvé cette merveilleuse mosquée abandonnée, vous vous rappelez, il s'y installe pour la nuit, et à ce moment-là, il a exactement le même genre de phrase. Il dit ceci, « J'éprouvais une nouvelle fois l'un des grands bonheurs récurrents de ces voyages, la conscience que personne au monde ne savait où j'étais, et en l'occurrence, pas même moi, avec quelque certitude que ce soit. »
Alors ces êtres qui auraient pu le pourchasser, c'était des êtres intérieurs ou c'était...
Les deux, enfin surtout intérieurs.
Je suis décidé de déguerpir, n'est-ce pas, pour voir comment c'était en Europe. Parce que c'était l'Europe qui m'intéressait surtout. Et surtout, j'adorais les classiques, la littérature, n'est-ce pas, c'est l'Europe. Pour moi, c'était la grande aventure. Ce n'est pas la Chine ni l'Amérique du Sud. C'est au fond, l'Europe classique et moyenâgeuse qui m'intéressait. Tous les livres que j'avais lus là-dessus, n'est-ce pas. Et j'avais... Je m'étais querellé un peu, pas définitivement, avec mon père. J'avais très peu d'argent. Je recevais une livre par semaine. Et je dis, c'est absolument parfait. Je vais aller en Europe, me lancer là-dedans, comme faisaient les clercs qui voyageaient au Moyen-Âge, des chanteurs, etc., des écoliers. C'était un peu dans ce goût-là, n'est-ce pas, qui étaient sans le sou, mais qui s'intéressaient aux choses de la poésie, la littérature, l'architecture, etc. J'avais la manie de lire, n'est-ce pas, j'étais toujours perdu dans les livres. Ce que j'aimais à l'école, au collège, n'est-ce pas, c'était le grec et le latin. Mais c'était ça et toute l'histoire de l'Europe, The Dark Ages, tout ça, les mouvements des barbares, et l'histoire de France et de la Germanie et de l'Angleterre, enfin, toutes les croisades, tout ça. L'Europe m'intéressait, ça me semblait l'endroit, l'air la plus riche et la plus fascinante et la plus compliquée qu'on puisse rencontrer.
Charlemagne avait franchi à grandes enjambées ce coin de l'Empire pour aller réduire les avares de Pannonie. Et les ruines de Hohenstaufen, la patrie d'une dynastie qui avait plongé pape et empereur dans des siècles de vendetta, continuaient de s'effriter à quelques lieues au sud-ouest. Sans cesse, des armées de mercenaires traînant des engins de siège, hérissés d'échelles d'assaut, avaient arpenté la contrée. Que nous le voulions ou pas, les capitaines polyglottes de ces armées de brigands internationaux nous toisent de leur air grave, avec leurs moustaches à la Velasquez, et peuplent la moitié des musées de peinture européens. Avec quelle sérénité pointent-ils leurs bâtons, caracolant sur leurs panaches, devant un arrière-plan de tentes et d'escadrons en lutte, où, chevaleresques, ils acceptent, tête nue et pied à terre, dans un taillis de lances, une reddition de clés ou d'épées. Ils nous dévisagent du haut de leur cadre avec une mélancolie hautaine et altière à la fois obsédante et intrigante.
Michel Déon.
C'était une curiosité naturelle. Il avait dû lire des récits de voyages à pied en Europe et peut-être a-t-il eu le sentiment que c'était encore un voyage qui était possible dans des conditions assez primitives et que c'est ça qui lui permettrait d'entrer en contact avec ces pays, avec leur population, avec leur caractère, avec leur histoire passée comme leur histoire présente. Et c'est un homme qui avait un formidable bagage intellectuel, formidable. Et, j'ai toujours vu prendre tout ça, dire tout ça et révéler des choses exceptionnelles avec un sourire sur les lèvres, en ayant l'air de vous prier de l'excuser.
Je pense qu'il lui fallait absolument trouver un but. Et ce but, c'était la Grèce, justement. C'était l'Antiquité, c'était Homère, c'était les tragiques grecs, c'était les poètes grecs. Sappho, on s'en souvient, fait une apparition. Et puis c'était Byzance.
Il adorait la poésie de François Villon, de Baudelaire. Alors il se trouvait très romantique, être un peu gitane, un peu the scholar gypsy.
Bohémien.
Le bohémien, voilà. Alors il se disait, je serai avec les gens les plus pauvres, je serai poète de la rue, toutes ces idées. Et bon, il s'en va comme ça.
En route, il a tenu un journal dans lequel il a relaté les principales choses qu'il a vues. Il a fait des portraits, je veux dire, écrits de tout ce peuple si différent de toute l'Europe centrale, et y compris de la Russie et de la Sibérie. Il avait, à la fin, quand il est arrivé à Constantinople, il avait deux énormes cahiers de notes, de dessins, tout à fait exceptionnels.
Pierre Johannon.
Quant à caractériser sa trilogie qui couvre la randonnée pédestre absolument extraordinaire qu'il a faite de décembre 1933 en partant de Rotterdam jusqu'à Constantinople où il est arrivé le 31 décembre 1935, je dirais que c'est un fourre-tout. C'est un fourre-tout qui est à la fois un livre de mémoire, un livre de souvenirs, un roman de formation d'une certaine manière, puisque c'est l'évocation de sa jeunesse, une jeunesse à laquelle il était très attaché. C'est un portrait extraordinaire d'une civilisation qui meurt sous les coups de l'Allemagne nazie et sous les coups du communisme qui va lui succéder. C'est un livre bouleversant parce que c'est un livre qui marque l'agonie d'une société. Et puis, il y a une extraordinaire curiosité, car on le voit s'intéresser aussi bien aux Gotha et aux titres nobiliaires de tous les gens qu'il a pu côtoyer pendant cette longue marche, que à la nature, il a des descriptions de nature absolument extraordinaires. Il n'ignore aucun nom de fleurs, aucun nom d'arbre, aucun nom d'oiseau. Il a des descriptions d'un vol de cigogne qui sont absolument remarquables. Et en même temps, il décrit les petites gens qu'il côtoie à la fin du livre, lorsqu'il est en Roumanie ou en Bulgarie, je ne me souviens plus très exactement. On le voit marcher, presque se noyer dans un étang et puis ensuite parvenir à se réfugier dans une grotte. Et là, il est avec des pêcheurs extrêmement frustes et des bergers plus frustes encore, grecs et bulgares. Et il les décrit avec une sympathie, avec une empathie absolument extraordinaire, car il y a quelque chose chez ce jeune homme qui est absolument admirable, c'est le sentiment de reconnaissance qu'il voue à tous les gens qu'il a rencontrés et qui lui ont tendu la main. Et Dieu sait s'ils ont été nombreux. À maintes reprises, il a été blessé, à maintes reprises, il s'est trouvé gelant de froid dehors, etc. Il a toujours été accueilli, soit par un aubergiste, soit par des petites gens, etc., qui lui ont tendu la main, qui n'ont pas demandé de rémunération ni quoi que ce soit. Et il a montré dans ce livre que la société qu'il a traversée, qui était une société extrêmement primitive par certains aspects, très développée par d'autres, mais était une société où il y avait une véritable entraide, une sympathie entre les gens, tout un ensemble de maillage social qui, il faut bien le dire, a disparu, semble-t-il, aujourd'hui.
Bon, il n'a pas tous les jours mangé à sa faim.
Michel Déon.
Mais il a tous les jours trouvé un petit travail que l'on lui payait. Et surtout, il s'est découvert un talent amusant. c'est qu'il dessinait très bien, il faisait d'excellentes caricatures des gens. Et il s'arrêtait dans des fermes, dans n'importe où. Il disait, vous avez pas, je veux bien une soupe ou quelque chose comme ça, n'importe où. Ce n'était pas en France, en Allemagne, c'était en Tchécoslovaquie, c'était dans des endroits très isolés où personne ne savait même ce que c'était qu'un Anglais. Et alors il faisait un portrait du maître de maison avec, ou de sa famille ou des enfants. Et naturellement, on l'invitait à rester pendant 2-3 jours.
J'étais de retour au pays de la bière. D'énormes assiettes ovales chargées de Schweinebraten, de pommes de terre, de choucroute, de choux rouges et de boulettes étaient déposées face à chaque convive. D'énormes rôtis les suivaient, d'origine mystérieuse, car leurs os, une fois rongés et reposés sur les assiettes récurées, brillaient comme des hanches de veau ou des os d'éléphant. Des serveuses bâties comme des haltérophiles ou des lutteurs de foire faisaient tournoyer cette provende, et les visages dégoulinaient et luisaient comme le feraient des visages d'ogres à un banquet. C'était un cadre digne de combats à la hache, de carnage. Les dernières pages de Nibelungenlied, où l'on voit la capitale du Hunland livrée aux flammes, et où tout le monde, dans le château, est haché en morceaux. Les choses devenaient rapidement de plus en plus sombres et floues. L'écho, la bière giclante, le grondement et le rugissement des courants rapides faisaient sombrer cette salle sous le lit du Rhin. Elle se changeait en grotte hantée par davantage de dragons, gardiens difformes de frustes trésors. Ou peut-être la terrible demeure où Beowulf, après avoir démis le bras de Grendel, la traquait dans la neige en cédant des taches de sang. Une fois arrivé au bord de l'étang, plongeait à plusieurs centaines de mètres de profondeur pour tuer sa vieille sorcière aquatique de mer dans un tourbillon de sang et d'eau broyée. C'est du moins ce qui semblait se passer quand on déposa la troisième chope.
Je dois dire que, à part ces discussions dans les bistrots,
Patrick lit Fermort.
Les Allemands à la campagne, les fermiers, les paysans, etc., ont été d'une hospitalité et d'une gentillesse et d'une simplicité irréprochables, très gentils. Il y avait quelque chose de très touchant. J'ai passé l'hiver chez dans une petite auberge, par exemple, où tout on éteignait toutes les lumières, allumait les chandelles et chantait « Stille Nacht » et « Es ist ein Rosensprung » et des chansons moyenâgeuses de Noël allemand. Il y avait quelque chose de très attachant, ce côté à la campagne, n'est-ce pas, très simple, le long du Rhin, n'est-ce pas. Et puis, j'ai quitté le Rhin, j'ai monté le Rhin, j'ai passé de là au Danube, à Heidelberg, où j'ai passé le Nouvel An. De Heidelberg, je suis allé jusqu'à Düsseldorf, vers la forêt noire.
Alors ce jeune vagabond qu'est Patrick Lefermort, c'est un peu un itinérant qui va d'auberge en château, d'église en monastère, un petit peu à la façon des moines médiévaux, des clercs.
Voilà, et au début, il vit vraiment comme un pauvre vagabond. Ça n'est qu'après, à peu près vers Munich, à la faveur, si j'ose dire, du vol de son sac à dos, de son premier sac à dos. Il va être hébergé parce qu'il avait une recommandation chez des châtelains. Et ces châtelains vont lui donner, écrire des recommandations qui, de loin en loin, ponctueront le voyage et qui feront que, pratiquement jusqu'à la fin, jusqu'au mont Athos, certes, connaîtra encore des couchers à la belle étoile, à la belle saison, des granges, mais pour l'essentiel, il ira véritablement de château en château. Ça va être un voyage, de ce point de vue, enchanté.
Pierre Johannon.
Il a si bien côtoyé des princes, des comtes en Europe de l'Est, etc., qu'il a même eu une liaison avec une femme qui porte un des grands noms de l'Europe de l'Est, Bacha Cantacuzène, qui est une descendante de souverains de cette région, et que après son périple en 1935, il est resté dans la région, il a encore passé quelques années, profitant de cette idylle avec Bacha Cantacuzène, et il n'est revenu en Angleterre que à cause de la guerre en 1940 pour faire ce qu'il estimait être son devoir.
Patrick Lefermore a également rencontré quelques paysannes quelquefois.
Oui, absolument. Ah, mais il n'avait aucun sentiment de classe. Il pouvait partager la couche soyeuse des aristocrates et celle extrêmement plus fruste des paysannes. Et il le décrit dans son livre avec beaucoup de discrétion. On reste dans une discrétion de bon ton.
Et puis j'ai traversé la frontière roumaine et je me trouvais tout d'un coup dans la Transylvanie. Pour moi, ça avait une ambiance conte fait, n'est-ce pas, qui est de grande beauté. Et puis, j'ai passé tout l'hiver, et hiver comme un rêve.
Il y a une xénophilie qui est très nette chez lui et une curiosité des êtres, des nations, des peuples et des traditions qui est absolument extraordinaire. Et c'est vrai que c'est un ethnologue amateur tout à fait remarquable. Il y a des descriptions de costumes traditionnels, il y a des descriptions de coutumes, il y a des descriptions de lieux qui sont véritablement d'un ethnologue.
Un mot m'a toujours frappé comme étant le meilleur que j'ai entendu pour exprimer une noirceur irrémédiable. Zbouchoum, un spondé désespéré de déréliction complète. Le blues moldo-valaque. C'est une émanation des villages, des champs et des plaines. Extrêmement lente, aux longues pauses et mélodies insaisissables. D'une beauté irréelle qu'on saisit par la fenêtre d'un train. De derrière une meule quand les moissonneurs ont coupé la dernière gerbe, ou depuis un village à la tombée de la nuit, quand on y arrive à pied, comme je le faisais en cet instant. On s'arrête, on écoute, et l'on comprend que l'ordre et la scansion que ces trinodies ont imposés sont la seule manière de rendre supportable une représentation du monde qui dit que tout ce qui peut percer le cœur se trouve ici, et que tout est vain.
Patrick Lefermore projetait donc d'aller de la Corne de la Hollande, où il est parti, jusqu'à Constantinople. Mais alors, il arrive donc à Constantinople, mais curieusement, il y a très peu de notes, quelques notes éparses, mais très peu. Il nous dit très peu de choses sur Constantinople. Alors, comment l'interprétez-vous, Artemis Cooper ? A-t-il été déçu par Constantinople ?
Je pense qu'il était déçu, pas seulement avec Constantinople, mais avec lui-même. Parce que c'est quand on a fait un énorme voyage comme ça et on arrive à son but, il y a souvent ce sens. Mais alors le grand voyage est terminé, mais moi je suis encore le même, j'ai encore les mêmes problèmes. Il ne savait pas quoi faire. Je pense que c'était aussi la première fois qu'il avait essayé d'écrire un peu de ses expériences du voyage, mais c'était vraiment trop tôt. Alors ça aussi, ça n'allait pas bien. Et en plus, je pense que Constantinople était à cette époque une ville assez triste. Atatürk avait déjà déplacé la capitale à Ankara. Et donc, l'Istanbul était triste. Dans un sens, une ville avec le cœur arraché. Et je pense qu'un peu de cette ambiance lui est entrée dans le cœur. Et certainement, dans les années après la guerre, il disait toujours « Chaque fois que je quitte Constantinople, c'est comme un fardeau me lève du dos. »
Il est au mont Athos et...
Guillaume Villeneuve.
C'est son anniversaire, vous vous rappelez, donc c'est le 11 février. Et il se rappelle où il était un an avant. Il y a un an, à 7 heures, le même jour, je me tenais sur le donjon ruiné du Dürnstein, le cachot de Richard Cœur de Lion, et regardais les montagnes irrégulières de la Wachau, le ruban bleu du Danube tout en bas et les clochers à peine visibles du monastère de Göttweig au loin. Cela paraît si lointain. On a ici, en un raccourci, le résultat du voyage, c'est-à-dire une superposition de plans, de points de vue, de langues, d'histoire, car il regarde ça maintenant depuis le mont Athos. Il est en plein empire byzantin, n'est-ce pas ? Et en plus, au milieu des moines orthodoxes, dans la liturgie orthodoxe.
John Julius Norwich.
Son grand voyage à travers l'Europe. Ah, ça, évidemment, c'est une aventure. Ce n'est pas dangereux, mais au même temps, il n'avait aucune idée de ce qui allait se passer. Ça dépendait seulement de lui et de son intelligence et de son énorme charme qui a fait ce voyage presque, je dirais même, un objet d'art. Enfin, c'est à cause de cette qualité indescriptible, cette qualité, l'ingrédient X, comme nous disons en Angleterre. Il y a peut-être un je ne sais quoi. Il avait un ingrédient que personne d'autre n'avait.
Et je suis descendu à pied à Athènes. Là, j'ai rencontré quelqu'une que j'aimais beaucoup, qui était roumaine. Et nous sommes partis pour habiter un moulin à eau dans l'Argolide du Péloponnèse. Et puis, tout d'un coup, l'hiver s'amenait de nouveau. Et l'idée est venue de rentrer en Roumanie. Et nous sommes allés en Roumanie, où nous sommes arrivés, la neige tombait déjà, à une espèce charmante, délabrée maison de campagne, qui est très grand-monesque, je peux dire, n'est-ce pas, où cette famille habillée. Et là, j'ai passé 2 ans, très heureux, en train de lire et d'écrire. C'était comme une université pour moi ici. C'était des gens extrêmement calés. Mais voilà, je vivais cette vie extrêmement heureuse, idéale, bouquinant, n'est-ce pas, lisant, montant beaucoup à cheval, dans la Moldavie. Mais tout d'un coup, la guerre est éclatée. Et là, j'ai dit au revoir à mes amis. Je suis rentré en Angleterre, je suis engagé dans les Irish Guards, dans la garde irlandaise.
Sur ces entrefaites, les services secrets repérant ce jeune homme qui bouillait d'impatience d'aller se battre et qui en même temps parlait 5 ou 6 langues étrangères de cette Europe de l'Est où il allait se passer des choses, ont mis la main sur lui, l'ont envoyé en Macédoine, l'ont envoyé en Grèce et puis l'ont envoyé en Crète. Et alors en Crète, il était à la tête d'un groupe de partisans crétois. Il était toujours extrêmement bien mis, il était habillé à la crétoise, mais avec des gilets brodés tout de même. Et en avril 1944, ces partisans crétois dirigés par Padilly Fermor ont eu une idée folle, celle de kidnapper le général Kreip qui commandait les troupes allemandes en Crète. D'ailleurs, ça n'était pas celui-là qu'il devait kidnapper. Il devait kidnapper un autre général qui avait précédé le général Kreip, qui s'appelait Müller, et qui, lui, a été un bourreau de la Crète, et qui a brûlé des villages, qui a fait fusiller des otages, qui a fait torturer, etc. etc. Telle enseigne, c'est que lorsqu'il a été capturé après la guerre, il a été jugé et fusillé comme criminel de guerre. Donc, c'est celui-là qu'il voulait kidnapper. Et puis, tout d'un coup, celui-là a été nommé ailleurs, et c'est le général Kreip qui est venu, qui était un général de la Wehrmacht plutôt classique et qui n'était pas un bout en guerre. Ils avaient ce général sous la main, ils l'ont donc kidnappé.
Nous étions deux officiers anglais et 9 Crétois, et tous des Crétois, parce que j'avais été 2 ans en Crète avant ça. On est tombé à parachute, et puis on a étudié l'endroit. Ce qu'on a fait, il y avait un endroit où la voiture est généralement rentrant dans son état-major. Nous avons trouvé un endroit où l'auto devait ralentir, n'est-ce pas? Et alors, l'autre anglais et moi, nous étions habillés en allemand, en capot allemand, comme ceux qui contrôlent la circulation. Et nos copains, n'est-ce pas, les Crétois, étaient cachés dans la fosse à côté de la... Et moi, je suis avancé. Et on a fait arrêter la voiture.
Général Kreip.
Und an einer Kurve stand plötzlich ein deutscher Posten. Anhielt.
I was on the way to the headquarters when two men.
J'étais en route vers mon quartier général lorsque deux hommes en uniforme allemand nous arrêtèrent dans un virage. C'était très étrange de nous arrêter sans raison. Vos papiers, s'il vous plaît, dit le major Fermat. Mon erreur fut de sortir de la voiture. Au moment où je fis, d'autres partisans sortirent des buissons, me jetèrent sur le sol et me ligotèrent. Bien sûr, des mauvaises choses sont arrivées, notamment pour mon chauffeur. Ils me forcèrent à remonter dans la voiture sous la menace d'un pistolet allemand et nous prîmes le chemin d'Héraclion.
Et moi, je suis mis à côté du Bélémos chauffeur portant le chapeau du général. Et c'était la nuit, vous comprenez. Et tout ça a pris moins qu'une minute, cette opération. Alors, on est parti. Et on est parti vers la plus grande ville. On a passé des blocs, des 11 blocs, où tout le monde, voyant les fanions du général, n'est-ce pas, on saluait, présentait les armes, n'est-ce pas, etc. Nous passions comme des rois, n'est-ce pas.
Sur le trajet de la voiture, ils ont laissé plein de petites notes amusantes, dire « Votre voiture, on fait très attention, vous inquiétez pas, le général est en très bonne main, il est très sympathique d'ailleurs. Bon. » Et ils l'ont gardé dans les montagnes.
Wurde von meiner Besatzung, meinem Trupp, sehr ritterlich behandelt.
The men in the party were very nice.
Les hommes du groupe étaient gentils. Ils m'ont bien traité. Je suis tombé une fois de ma mule et je me blessais l'épaule. Ils prirent soin de moi. Je ne pouvais pas marcher facilement. Je n'avais pas comme eux des chaussures appropriées aux roches glissantes. J'ai beaucoup souffert.
Nous étions 3 semaines ensemble. C'était une époque très étrange. Et lui, heureusement, c'était un général très calé. Et c'était pas un fun, quelque chose, mais c'était le fils de pasteur de Hanovre, mais qui avait étudié les humanités pendant toutes ses années d'école et connaissait Horace par cœur. Et j'avais la manie d'Horace. Et tout d'un coup, il regardait à travers, nous avons passé le Montida avec des pluies et des neiges, etc. Et nous étions à l'autre côté de la vallée. Et il regardait à l'autre côté de la vallée où le soleil se levait sur le Montida. Et lui, là, c'était un vers d'Horace qui était « Vides aut altas, tet neve candidum soracte ». Et il arrivait que c'était le seul, presque le seul, que je connaissais par cœur. Et j'ai pu continuer. Neciam sustineantur nos, silve laborantes, geluque, flumina constiterint acuto, dissolve frigus ligna superfoco, etc., pour le reste du poème. Et à la fin, le général me regardait avec ses yeux bleus. Il y avait un silence. Il m'a dit, « Ach so, Herr Major. » Et moi, je dis, « Ja, Herr General. » Et c'était comme si la guerre avait subitement, complètement cessé. Comme somme qui nous avions bu, naguère, n'est-ce pas, à la même fontaine, n'est-ce pas. Et c'est comme si la guerre avait complètement fini. Mmh. Et ça a complètement changé nos rapports entre eux. Et voilà. Et à la fin, on a trouvé moyen, avec nos TSF, n'est-ce pas, de faire venir un bateau la nuit sur le côte sud du Crète. Et nous sommes allés à Merzamatou et depuis au Caire. Et c'était la fin de cette aventure.
Ich grüb es gern in jeden Kieselstein. Ich möchte säen auf jedes frische Beet mit Kressensamen, der es schnell verrät. Auf jeden weißen Zettel möchte ich schreiben: Dein ist mein Herz, dein ist mein Herz, und sollte ich ewig bleiben.
Après la guerre, Patrick Lefermort a continué à voyager, mais de façon tout à fait différente.
Alors, il a pas mal vécu en France, à Paris, dans le quartier latin de la grande époque. On sait qu'il a eu une aventure avec Juliette Gréco. Bien entendu, il a fait d'autres voyages. Donc voilà, il est allé en Afrique. Il est allé notamment au Pérou, où il a fait une expédition andine. Il est allé aussi sur les traces de son père, en Inde. Il a retrouvé des traces de son père qui, comme vous le savez, vivait en Inde. Et à Simla, dans Darjeeling, il est allé donc sur les contreforts de l'Himalaya. Il avait beaucoup de chance parce que des problèmes financiers qui avaient véritablement été une hantise pendant toute son enfance, sa jeunesse et le début de sa vie, ont été réglés très élégamment par sa femme, qui, avant même leur mariage d'ailleurs, lui servait une indemnité qui lui a permis de voyager.
Après sa guerre, il n'est pas rentré au bercail, il est revenu à ses amours, c'est-à-dire à ses terres d'élection qu'il avait visitées lors de sa grande marche, et il s'est établi en Grèce. Il a vécu tout le reste de sa vie en Grèce, et ce n'est que quelques mois avant sa mort, sentant sa fin prochaine pour des raisons de commodité, qu'il est rentré en Angleterre pour mourir en Angleterre.
Il avait cette maison,
Michel Déon,
qui n'était pas tout à fait sur la plage, mais qui était un petit peu en retrait. Vous savez, le Mani est une région de la Grèce qui n'était pas tellement aimée par les Grecs, parce que les Maniotes passent pour d'anciens pirates, pour des brigands, ils organisaient des grandes guérillas en mer, et la région n'est pas très fréquentée. Et je n'ai pas besoin d'ajouter que la vue était absolument magnifique, dans un paysage où il était le seul, le roi, quoi. Enfin, vraiment, il était tout seul à Cardamilly. C'est un endroit très isolé. Hein.
Le jeune Patrick Lefermort prend des notes et il compose ses livres. Finalement, il les élabore des dizaines d'années plus tard. Alors, quelle est la part réalisme, quelle est la part de la fiction, quelle est la part du romanesque? Est-ce qu'on peut lui faire confiance? Est-ce qu'il a vécu tout cela, Guillaume Villeneuve?
Alors, s'il s'agit de répondre, de se demander si le récit est réécrit et réinventé, la réponse est évidemment oui.
sauf pour la toute fin, comme vous savez, donc le journal du Mont Athos, qui est pratiquement à la lettre ce qu'il a écrit à l'âge de 20 ans, et qui nous donne donc, à la fin, le Paddy Liefermore dans sa fraîcheur la plus juvénile. Il y a aussi, à la fin du premier tome, des passages qu'il avait lui-même repris de son journal écrit sur le vif. Peut-être les avait-il un peu remaniés, on ne le sait pas, on peut le supposer. En tout cas, évidemment, quand il réécrit dans les années 60, 70 et 80, donc des décennies après la fin du voyage qui s'achève en février 35, n'est-ce pas ? Donc une guerre et presque 40 ans le séparent de ce voyage, il est bien évident qu'il a réinventé et que, après avoir fait un voyage physique, un voyage géographique, il a ajouté au pèlerinage psychologique qui avait été le sien sur le moment un voyage, on peut le dire, spirituel, de réinvention. Et c'est pourquoi ce livre qui, de mon point de vue, est un livre majeur. C'est pourquoi ce livre est unique dans probablement la production littéraire mondiale.
Ce livre, c'est Dans la nuit et le vent, la trilogie des récits de son voyage que vous avez traduit. Mais alors, comment les qualifier ? Lui-même refusait de voir ses ouvrages considérés comme des livres de voyage.
Je crois que les très grands auteurs subliment les genres. Et évidemment, le livre que nous avons sous les yeux est plus qu'un récit de voyage, plus qu'une autobiographie, plus qu'une création de l'imagination. Moi, j'aurais envie de l'appeler un pèlerinage au sens spirituel, mais vous voyez, c'est de cet ordre. Et c'est aussi un Lied romantique allemand, un hymne à l'amour, à la nature. Encore une fois, on entend sans cesse Fischer-Dieskau chanter Schubert et Hugo Wolf, qui d'ailleurs sont cités par notre auteur, puisqu'il les a entendus sur le vif, si j'ose dire, chanter dans des châteaux au piano après le dîner.
Un voile indistinct assombrissait le ciel au-dessus d'une échancrure à l'horizon. Un large voile qui semblait presque solide au centre. Il s'amincissait sur les bords, effrangé d'innombrables taches mobiles, comme si le vent eût soufflé sur un vaste tas de poussière ou de suie ou sur des plumes tout juste invisibles. Passé l'épaule de la montagne, cette masse mobile, sans cesse renouvelée d'outremont, cessa d'être une silhouette de ce côté de la montagne, commença de s'étendre et d'évoquer davantage les plumes que la poussière ou la suie. Elle se faisait de plus en plus blanche. L'avant-garde s'élargit encore en descendant et grossissant, dansante, fluctuante, filant droit sur la partie de montagne où nous nous tenions médusés à la fixer. C'était une lente horde aérienne, énorme, impressionnante, composée de myriades d'oiseaux dont les guides se distinguaient à présent, voguant vers nous sur des ailes quasi immobiles, enfin identifiables à mesure qu'ils se dessinaient à nouveau sur le ciel. Des cigognes. D'un seul coup, nous fûmes sous un toit d'ailes, haut et mobile, une flottille qui se muait en armada, jusqu'à ce que nos oreilles fussent pleines d'un puissant frisolis, parfois altéré quand un oiseau changeait de position en ralentissant d'un ou deux battements, et empli de cet étrange grincement de masse, comme de mille charnières délicates, d'une myriade d'articulations graciles. Elle hâtait la nuit. Une ombre déchiquetée pommelait la montagne tout autour de nous.
Comme nous tous, c'était un être paradoxal, et il avait beaucoup de snobisme en lui, un grand goût des relations humaines et en même temps un profond besoin de solitude, de réflexion solitaire, de méditation et probablement de prière. D'où ses fréquentes retraites monacales. Et il a composé en 1957 un petit livre sur le monachisme occidental.
Qui s'appelle
en anglais « A Time to Keep Silence », mais c'est un verset de l'Ecclésiaste, c'est-à-dire stricto sensu, la traduction canonique est « Il y a un temps pour se taire ». Je crois qu'il a eu des passages dans sa vie, certainement. Il était enclin à une certaine dépression.
Il n'était pas du tout austère, enfin. Il aimait la bonne cuisine, le vin, les femmes, tout ça. Tout ça, c'était partie de sa vie. Mais avec ça aussi, il aimait énormément juste la conversation et surtout le rire. Et il chantait, il connaissait des milliers de chansons dans 4 ou 5 langues. Et on disait, et si on apprenait que Padé venait le week-end, on était vraiment surexcité. Lorsqu'il entrait dans une maison, il la transformait.
Mais vous ne lui trouvez pas de défaut, John Julius Norwich, à Patrick Lefermore?
Oui. Aucun.
Aucun.
Aucun. Aucun.
Vous êtes totalement...
C'est vrai. Non, c'est vrai. Ah, oui. J'avais beaucoup de... Non, pas de défaut.
Maintenant, j'espère qu'il m'entend. Je voudrais lui dire qu'il n'a pas dit qu'il était parfait.
C'était un homme irremplaçable, finalement, Patrick Lefermore.
Ah oui, certainement. C'était un homme absolument unique. On ne verra jamais son égal. Moi, certainement, j'ai maintenant 84 ans. Je ne verrai certainement pas son égal. Je me compte très, très, très content, très même béni pour l'avoir connu. Il y a une sorte de miracle aussi.
Je me demande si Paddy n'avait pas tous les dons. Qu'est-ce que nous aurions dû en faire, le garder, le momifier, parce que c'est un des hommes les plus intéressants du XXe siècle. Et pour lui, la mort était quelque chose de très facile à affronter et à dominer. Et il l'a bien dominé. Et c'est un super-héros. Il en faudrait encore 3 ou 4 comme lui, comme ça, et le monde irait mieux.
Patrick Lefermore, une émission de Françoise Esteb, avec Artemis Cooper, biographe de Patrick Lefermore, Michel Déon, écrivain, Pierre Johannon, secrétaire général du prix Audiberti de la ville d'Antibes, qui fut décerné à Patrick Lefermore, John Julius Norwich, historien, Guillaume Villeneuve, traducteur de la trilogie Dans la nuit et le vent, édition Nevicata, et la voix de Patrick Lefermore, extrait de Mémoire du siècle, France Culture 1992. Archivina, Amélie Briand-Lejeune. Texte lu par Frédéric Courreau. Équipe de réalisation, Thomas Robin, Julien Douminc, Lionel Quentin.
C'était Une vie, une œuvre, une émission coordonnée par Martin Kénéen avec la complicité de Claire Poinsignon et consacrée cette semaine à Patrick Lefermore. Commentaires, réécoute, podcast et compléments sur la page de notre émission sur franceculture.fr. La semaine prochaine, dans Une vie, une œuvre, Niki de Saint-Phal. Et tout de suite, c'est le temps des écrivains de Christophe Onodibio, votre nouveau rendez-vous littéraire sur France Culture.